L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices sachant auditer. Les dernières émissions vous ont fait part de l'opinion sur l'éducation de deux papas, qui était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Et alors, évidemment, on ne va pas en rester là, parce que les papas, c'est qu'une partie du problème. Donc maintenant, je suis avec deux mamans, et je leur propose le même schéma que j'ai proposé aux papas, c'est-à-dire d'écouter les mêmes extraits des émissions de Françoise Dolto, et qu'elles réagissent et qu'elles en parlent comme elles ont envie, en toute liberté. Il n'y a aucune censure et il n'y a pas de directive non plus. Voilà, donc je vous propose tout de suite, nous sommes donc sur l'éducation buissonnière sur Radio Barthas, je vous propose tout de suite le premier extrait de Françoise Dolto.
Françoise Dolto, vous vous souvenez récemment, vous aviez répondu à quelques lettres amusées, entre guillemets, d'auditrices ou d'auditeurs qui disaient que vous alliez quand même un peu fort en disant que quand un enfant naissait, finalement, c'est parce qu'il avait le désir de naître. Alors on va parvenir là-dessus, mais il faut peut-être répondre à d'autres lettres, par exemple celle d'une auditrice qui dit, enfin, est-ce que vous n'allez pas vraiment trop loin quand vous conseillez de parler, toujours parler aux enfants, mais parler à un enfant de 10 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, or, c'est vrai que vous, tous les jours, vous le dites pratiquement ici même, et que tous les jours, il y a des lettres aussi de parents qui vous confirment dans cette opinion.
Oui.
Des témoignages.
Et qui confirment et qui disent, depuis que je lui parle, la situation a totalement changé entre nous. Alors, je ne sais pas très bien comment répondre à ces personnes qui sont tellement profondément convaincues qu'un bébé est un débile, alors que spirituellement et psychiquement, c'est notre égal, et parfois notre supérieur, puisque les enfants qui deviennent des gens de très grande valeur, eh bien, ils avaient cette valeur à la naissance. Bien sûr, ils l'ont développée dans un sens qui est utile à la société, et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des gens de valeur. Mais à mon avis, les enfants sont très intelligents, et par une même personne, est à sa naissance presque plus intelligente qu'elle ne le sera plus tard, bien qu'elle n'ait pas les moyens de l'exprimer. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a jamais assez de respect pour un être humain qui est dans la parole depuis la vie fœtale et qui a toujours entendu des grandes personnes parler entre elles. Et la seule manière de respecter un être humain depuis son petit âge, c'est de lui parler, qu'il entende ou non. Ceci prouve, de la part de l'adulte, qu'il le considère comme un interlocuteur valable. Et c'est cette attitude-là que les parents doivent prendre très tôt. Parce que quand est-ce qu'ils vont commencer à parler à leur enfant s'ils ne commencent pas dès qu'il est petit? Il n'y aura pas un jour J où ils vont se dire « Tiens, il comprend ». Alors, il faut savoir que quand un enfant commence à parler une langue, c'est qu'il y a 9 mois, ou au moins 9 mois, où s'organise le langage, c'est-à-dire qu'il l'entend, bien qu'il ne puisse pas le parler. Alors pourquoi ne pas lui parler comme à une personne aussi valable que les voisins que nous rencontrons et à qui nous parlons?
Alors, mes deux mamans que je ne vous ai pas présentées, donc Marilyn et Magali.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'en pensez-vous?
Alors, moi, je me posais une question. Elle parle des 9 mois après la naissance ou
ah non, je pense qu'elle parle des 9 mois de gestation.
C'est ça, de gestation.
Ah oui, je pense, oui.
Je pense que c'est admis aujourd'hui de parler aux enfants dès qu'on sait qu'on est enceinte. Après, il faut peut-être replacer son discours dans le contexte de l'époque. À cette époque-là, oui, on considérait peut-être plus les enfants comme des débiles, comme elle dit.
C'est vrai que oui, on a fait beaucoup de progrès. En 3 dizaines d'années, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là.
Et oui, de nos jours, les papas même parlent aux enfants à travers le ventre. Ça me paraît normal en tout cas. Ça me paraît même nécessaire et indispensable, quoi. Enfin,
oui, mais ça ne l'était pas du temps de Dolto, c'est ça aussi.
C'est ça qui est dingue plutôt.
Ouais. Oui, c'est un peu, c'est un peu fou. Mais qu'elle parle de débile, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Magali?
Effectivement, quand elle parle de débile pour un bébé, en ce qui me concerne, je n'ai jamais parlé à mon bébé comme si je parlais à un débile. Pour moi, cet enfant était considéré comme une entité à part entière. Donc de ce fait, l'enfant qu'il était dans mon ventre et après quand il est né, je lui ai toujours parlé comme une personne à part entière. Voilà. Et parce que de faire des gazouillis, des gazouillots, des petits mots par-ci, des petits mots par-là qui ne veulent rien dire, moi, ça ne me concernait pas du tout, puisque si on dit des mots qui ne veulent rien dire à un enfant, pourquoi lui parler, après tout ?
Oui, enfin, moi là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que comme j'ai beaucoup utilisé les comptines, par exemple, pour les jeunes enfants, il y a des comptines qui n'ont pas de sens littéral. Enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est plutôt dans le... Pour moi, les comptines, ce sont les paroles, ces paroles-là, ce sont des sortes de caresses auditives, en fait. C'est des... c'est
des intentions.
C'est, voilà, c'est des intentions. C'est de, et puis, c'est des jeux aussi, parce qu'il y a beaucoup de comptines qui sont, en fait, qui jouent sur les syllabes, qui jouent sur les, la sonorité. Donc, en fait, c'est pas...
Alors après, c'est pas pareil, on parle pas de la même chose.
Non, non.
À un enfant quand il est encore dans notre ventre et après, une fois qu'il est dehors, ou effectivement, c'est, enfin, pour moi, pour le coup, du moins pour le premier, l'entité à part entière, l'être humain est arrivé à la naissance, quoi. Avant, c'était encore quelque chose d'interne, à moi. Alors j'en avais bien une idée et puis j'avais bien vu des enfants autour de moi, et ma foi, j'en étais un aussi. Mais c'est quand même interne, et du coup, quand je lui parlais, je me parlais à moi aussi. C'était un peu des fois mélangé.
Oui, c'est vrai.
J'ai vraiment différencié qu'après la naissance, je pourrais dire. Au moins pour le premier enfant, le deuxième, peut-être beaucoup moins, nettement moins même.
Oui.
Mais moi, j'ai qu'une petite fille, donc du coup, je ne peux pas faire de comparaison entre les deux. Mais je pense que ce qui est important à notre époque aussi, c'est que. Nous avons aussi beaucoup le toucher, en fait, sur notre corps, et notamment celle du papa, qui intervient assez régulièrement. Et du coup, je pense que là, ça change la donne aussi, la relation que peut avoir le papa avec le fœtus, et la maman, sa relation à elle, qu'elle peut avoir avec le fœtus également. Donc, je pense que si le papa... est présent, peut-être que la maman l'est encore plus, d'une certaine manière.
Différemment, en tout cas.
Différemment, forcément. Bien entendu.
Forcément. Mais je pensais autre chose à propos des paroles. Moi, je remarque souvent, avec des enfants qui sont vraiment petits, il y a certains parents qui leur font des grands discours pour leur expliquer qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il vaudrait mieux comme ça. Et puis machin, il a dit que, et puis le savant, truc. Oh là là. Je me dis, mais c'est pas... Là, ça devient... moi, j'ai envie de rire, en fait. Mais c'est un petit peu absurde.
Oui.
Faut pas non plus. Il y a des moments où on peut parler d'une façon directe, sans être obligé de faire des tas d'explications plus ou moins psychanalytiques ou autres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Moi, ça dépend du sujet. C'est sûr que je me suis déjà vue parler à mes enfants de manière très compliquée, parce que pour moi, ça me paraissait... compliqué de simplifier. Après, je sais pas, ça dépend du sujet. Si c'est un sujet que je connais, eh ben, je vais avoir beaucoup de mal à le simplifier. Pour le coup, je vais partir dans des explications un peu complexes. Ils vont finir par lâcher, puis partir. Ou alors, ils vont continuer à écouter, poser des questions. Puis je me dis, ils prennent ce qu'ils prennent.
Oui,
c'est vrai. S'ils comprennent pas, c'est pas bien grave. Ils entendent, en tout cas, des mots compliqués. Ils entendent des concepts compliqués. Et puis, pour le coup, j'en ai que deux, mais sur deux, je me dis déjà, ils prennent pas les mêmes choses. Je me dis, voilà, chaque être se construit avec ce qu'il entend et ce qu'il comprend.
Oui, c'est vrai.
Après, je pense vraiment qu'on peut dire des choses complexes aux enfants, si c'est pas de l'ordre du si ça touche pas à l'émotion. Après, l'émotion, c'est peut-être plus compliqué,
oui,
mais si c'est juste de l'ordre d'explication du monde ou de la compréhension.
Oui.
Ou de...
Mais moi, je pensais plutôt de l'explication de situations concrètes, au lieu de leur dire carrément non, écoute, là, tu peux pas faire ça. Mais il y en a qui noient le poisson dans des périphrases pas possibles. Et moi, je trouve que ça sert à rien, quoi.
Oui, c'est sûr qu'à certains moments, suivant les situations, il faut être plutôt direct et ne pas en dire trop. Pour que l'enfant comprenne effectivement ce qui est bon ou pas pour lui. Oui. Mais après, un peu comme Marilyn, ça m'est arrivé même à ma fille de 3 ans de lui expliquer des choses complètement incongrues ou tout à fait concrètes, en fait, dans des discours où je me suis laissée un peu aller, c'est sûr.
Oui, non, mais pourquoi pas, mais
comme,
si elle...
comme Marilyn, je pense aussi qu'on peut toujours, oui. Oui, après, il y a des limites sûr, et l'enfant prend ce qu'il peut ou ce qu'il veut et rejette ce qu'il ne peut plus entendre, en fait. Mais oui. Pour des bébés de quelques mois, effectivement, je pense que non, ça sert trop à rien de faire. Il vaut mieux lui chanter de belles chansonnettes que de faire de grands discours à cet âge-là.
Ah, quand même. On va la revue les chansonnettes. Ah, ben je me sens mieux. Bon, d'accord. Non, je propose qu'on passe au deuxième extrait sur la place des parents.
Alors, Françoise Dolto, j'ai d'autres lettres maintenant, et la première parle du comportement des parents devant leurs enfants. C'est une lettre qui vient de Marseille et l'auditrice vous explique son cas. Elle dit voilà, depuis sa première année, mon fils est jaloux de mon mari. Alors elle est mariée depuis 4 ans, elle a 28 ans, son mari en a bientôt 41, donc l'enfant a 3 ans. Et elle dit cela crée chez nous un climat de tension épouvantable, surtout lorsque nous sommes tous les trois ensemble. Je n'ai pas le caractère, dit-elle, à gâter les enfants ni à céder aux caprices, et mon fils, tout en ne manquant de rien, ni d'affection bien sûr, a été élevé avec poigne. Tout cela sans résultat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle explique, mon mari, lui, qui à 38 ans a eu un enfant et pour qui c'était très important, s'est conduit avec lui de façon radicalement différente, à critiquer devant l'enfant ce que je lui disais. Et maintenant, à 3 ans, voilà une enfant qui n'obéit plus du tout, ni à moi, ni encore moins à son père, et qui en plus, dit la mère, appelle son père par son prénom, ce qui lui retire encore de l'autorité.
Oui.
Voilà un tableau, voilà des gens qui se posent des questions sur la façon d'agir avec leurs enfants.
Oui, c'est vrai que dans cette famille, la mère a le rôle de gendarme et le père le rôle maternant, d'après ce qu'on peut voir.
Absolument, oui.
Mais surtout, le père semble avoir été subjugué par le fait de l'arrivée de ce bébé et... Il se met à sa place et il n'aimerait pas être grondé, ce monsieur. Alors il se mettait à la place du petit qui était grondé par sa maman, d'après ce qu'on voit. Je crois qu'il faut qu'elle en parle à cet enfant et qu'elle lui dise « Écoute, lui, il est mon mari et toi, tu es mon fils. » Et puis que son père lui dit la même chose. Il lui dit « C'est ma femme et quand je suis avec ma femme, j'aimerais que tu me laisses tranquille parce que quand tu seras avec la tienne, je te laisserai tranquille. Entre hommes, on peut faire ça l'un pour l'autre. » Il faut qu'il parle de sa femme et non pas seulement de maman, de papa.
Oui, oui mais alors cela
c'est
dit.
C'est un enfant un peu en avance.
Oui, cela dit, je crois que ça intéresse beaucoup de ceux qui vous écoutent parce qu'elle explique par exemple qu'elle a élevé cet enfant avec poigne. Est-ce qu'on peut élever avec poigne
enfin,
un enfant qui n'a pas encore 3 ans ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce qu'il y a aussi d'autres lettres dans le courrier d'auditeurs qui disent, qui vous demandent votre avis sur les façons modernes, c'est ce qu'ils disent, entre guillemets, d'élever les enfants, c'est-à-dire le laisser-faire total. Alors,
c'est pas plus
où est la frontière entre
moderne,
le laisser-faire et la poigne ?
C'est de parler intelligemment avec un enfant et... Quelqu'un qui rit ou qui se moque de ce qu'un adulte dit à l'autre, je ne peux pas appeler ça avoir respecté l'enfant ni respecté l'adulte. Au fond, ils sont comme des enfants, ces trois personnes. Elle a beau dire que son mari est beaucoup plus âgé qu'elle, j'ai l'impression qu'ils sont comme des enfants avec l'enfant et qu'il se sent à leur niveau. Je pense que la meilleure des choses, ça serait de le mettre pendant la journée ailleurs, de temps en temps. Maintenant, s'il se mettait, lui, à devenir sévère et ferme, il se sentirait devenir femme. C'est très difficile. Je crois que cet enfant est un peu paumé quant à qui s'identifier pour devenir vraiment lui-même. Et dans ce moment, il s'identifie à celui qui fait tomber les quilles, quoi.
Alors Magali, qu'en penses-tu ?
À travers cet échange-là, je me rends compte qu'en fait, l'éducation est beaucoup plus difficile, je ne sais pas, mais complexe que ce que je ne me l'imagine, je pense. Il est vrai que cet exemple-là qu'on vient d'entendre, en fait, je pense, est très difficile à vivre. Et qu'effectivement, le papa, la maman et l'enfant doivent trouver la place au sein de la famille. Surtout quand l'enfant est en bas âge, en fait, je pense que de toute manière, c'est à ce moment-là qu'il faut que l'enfant comprenne où sont les limites, en fait, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire, etc. Pour qu'il puisse être mieux au fur et à mesure de sa vie quand il grandit. Mmh. Et qu'effectivement, je pense qu'il y a des discussions qui ne concernent que les parents et donc qui ne doivent être dites qu'entre les deux parents, qui ne doivent pas être dites devant l'enfant, en fait. Parce que les problèmes que peuvent avoir les parents entre eux doivent rester entre eux et ne doivent pas concerner l'enfant.
Oui, mais on le sent dans l'ambiance familiale quand il y a des problèmes entre le père et la mère, oui, même si on n'en parle pas.
Les enfants, ils... Là, effectivement, c'est très compliqué. Là, apparemment, d'après ce qu'on comprend, en fait, c'est le papa qui... Il a peut-être fait un enfant sur le tard, bon, mais en fait, peut-être qu'il n'assume pas à part entière sa parentalité envers son enfant, apparemment. Enfin, c'est ce que je comprends dans cet exemple-là. Oui. Donc, du coup, effectivement... moi, dans ma famille, le papa a su trouver sa place. Il a fait un enfant sur le tard également, mais il était tellement content qu'effectivement, c'est...
Il n'est pas devenu gâteux.
Quoique...
Chut, on ne vous dira pas qui est le papa.
Surtout, quand un papa a une petite fille, alors là, je pense que la relation est complètement différente que quand il y a un petit garçon qui arrive. Surtout que, pour nous, en ce qui nous concerne, ce sera le dernier enfant. On est quand même très, très heureux, heureusement. Mais du coup, cette relation à trois, c'est sûr qu'elle n'est pas évidente et qu'il faut faire attention avant tout à l'enfant, effectivement, mais il faut que le papa et la maman s'entendent bien, effectivement, parce que s'il y a des problèmes entre les deux, l'enfant subira automatiquement les conséquences, puisque, comme on disait tout à l'heure, il absorbe tout, oui, en fait, l'enfant. Donc, effectivement, essayer de le confiner, mais de faire attention à ce qui peut se passer, en fait, dans le foyer.
Mais ce qui est choquant, c'est en fait les paroles du papa, enfin dans l'exemple qu'on a entendu, les paroles du papa qui contrarient la maman devant l'enfant. Ça, c'est, oui, c'est vraiment... le père est en train de casser l'image de la maman.
Ah, ça, c'est clair. Après, j'ai un avis pas forcément aussi catégorique que ça. Moi, je pense qu'on peut grandir. Je pense que c'est même sain. Et c'est donner des armes à nos enfants pour le futur que d'imaginer que nos parents, ils peuvent ne pas être d'accord. Moi, ça me dérange pas de pas être d'accord avec le père de mes enfants. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord que je ne le soutiens pas. Si c'est lui qui commence à gérer une situation, ils savent que je l'aurais peut-être pas géré de la même manière. Maintenant, ils ont appris à nous connaître l'un et l'autre. Mais je leur dis, vous avez commencé, c'est vos pères qui a commencé à gérer, vous finissez comme ça. Moi, je le soutiens. Oui, peut-être c'était différent avec moi, mais c'est comme ça. Ouais. Après, ils savent très bien que ça aurait été géré différemment avec moi. On a deux manières de voir les choses, de les comprendre différemment. Suivant, on a passé la journée avec eux ou pas, déjà, on les sent mieux. Ce que celui qui arrive, qui n'a pas passé la journée avec eux, il ne les sent pas pareil. Ça ne me dérange vraiment pas d'affirmer et même de leur avouer. Mais ce n'est même pas avoué maintenant... Je le fais naturellement et pourtant, ce n'est pas du tout mon éducation. Moi, j'ai été éduquée, mes parents, il fallait toujours qu'ils soient d'accord devant moi. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était faux, en fait. c'est pas vrai, en fait. C'est juste un leurre. Et je trouve ça déconcertant, en fait, après. Donc, j'assume le fait de ne pas être d'accord, toujours. Après, je suis vraiment contre le fait de contredire et de critiquer l'autre. Par contre, je soutiens sa manière de faire. Quoi.
Oui, c'est une question de respect aussi dans la famille.
Sauf si, évidemment, enfin, je ne soutiendrai pas non plus des comportements excessifs. Mais voilà, après, j'ai...
Oui, bon. Oui, mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'on n'est pas forcé de montrer aux enfants toujours un visage complètement uni dans la famille et tout est beau, tout est rose.
C'est la vie.
C'est pas
aussi,
vrai,
de
toute façon, dans la vie, c'est pas vrai.
Voilà, c'est pas vrai. Donc, et pour moi, éduquer vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment le, la définition majeure de l'éducation pour mes enfants, c'est leur donner toutes les armes et le pouvoir nécessaires pour affronter ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, je vais vite être dépassée, ils vont vite le connaître mieux que moi en plus. Donc voilà, en plus, notre rôle, je nous dis, c'est en plus de rester au courant de comment le monde marche. C'est pas forcément d'en faire des enfants extrêmement épanouis dans une bulle. Voilà, c'est pas mon but, quoi.
Parce que quand la bulle éclate, de toute façon...
Ça fait mal.
Oui. Oui, c'est sûr. Tu as quelque chose à ajouter, Magali?
Non, je suis d'accord avec Marilyn sur ce point-là. Oui, je pense que quand même, heureusement encore, on peut se parler quand même devant nos enfants pour essayer d'arranger certaines problématiques qui concernent l'enfant, même si les deux ne sont pas d'accord. Oui, tout à fait.
Et il y a autre chose dont on n'a pas parlé, c'est quand la maman dit « j'ai élevé mon fils avec poigne ».
C'est vrai que
ça fait vraiment
c'est vieillot,
bizarre, quoi.
Ça fait vieillot.
Ça fait vieillot, mais oui, ça n'existe plus maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle poigne d'ailleurs? On ne sait pas trop.
La sévérité,
Oui, poigne, certainement,
c'est serré, quoi.
Ou alors,
ou alors avec, avec la fessée, quoi. Avec
tu
la
crois
poignée. Oh, ça, c'est pas. Ouais, ça, je
non,
sais pas.
Ou une maman qui est toujours derrière son enfant en train de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça.
Ben ça, c'est pas
sinon si, sinon ça, enfin je sais pas, moi non, c'est pas...
C'est pas de la poigne, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Carrément.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux.
Bonjour Françoise Dolto.
Bonjour Jacques Pradel.
J'ai deux lettres, une lettre d'un médecin qui vous demande de parler de l'ordre, et puis une autre lettre, je ne sais pas d'où elle vient, d'une mère qui vous demande de parler du désordre. Alors j'ai pensé qu'on pouvait peut-être valablement prendre ces deux lettres et essayer de faire un peu le point sur cette question, parce que c'est vrai que beaucoup de parents qui aiment un peu avoir une maison rangée, beaucoup de mères, surtout qui vivent chez elles, supportent assez mal le désordre. Alors d'abord la lettre du médecin, elle est très courte, il ne précise pas... de quel enfant il s'agit. Il vous demande simplement, pouvez-vous nous conseiller sur la façon d'amener un enfant à être ordonné sans toutefois le rendre maniaque? Autrement dit, comment lui apprendre à ranger ses affaires sans tuer sa spontanéité et tout en le respectant?
Oui. Bon. Eh bien, cela, certainement pas avant 4 ans, chez un enfant doué et vivant et en bonne relation avec le monde extérieur. Pour le lui enseigner. Mais il faut aussi que jusqu'à 4 ans, l'enfant voit ses parents ranger les choses. Et lui dire parfois, quand il a 2 ans et demi ou 3 ans, « Écoute, je ne retrouve pas mes affaires parce que tu as dû y toucher. » Et alors on cherche, on dit « Tu vois, tu emmènes les affaires un peu n'importe où. » Il faut lui faire remarquer que sa vitalité, tout à fait inconsciemment pour lui, lui fait prendre des choses et puis les laisser à un endroit où ça, parce que ces choses ne l'intéressent plus, et puis s'intéresser à autre chose. C'est ça un enfant.
Mais après 4 ans donc.
On ne peut pas lui enseigner avant 4 ans, mais on peut lui en parler avant.
Bien sûr.
Mais pour enseigner à un enfant de ranger, il ne faut pas qu'il range dans la journée pendant qu'il est dans l'action. C'est impossible. C'est quand on a terminé soit une demi-journée, qu'il va y avoir, il faut déjeuner, il faut ranger un peu, on range la pièce où il se trouve qu'on va se réunir pour le repas, et on remet rapidement, tiens, aide-moi, tout ça, ça va dans ta chambre, ça, ça va dans la mienne, s'il y a plusieurs chambres, ou ça va dans tel placard, etc. Mais c'est impossible de tout ranger avant que l'enfant soit dans son lit ou au moment de s'y mettre. C'est au moment où l'enfant se range lui-même, range son corps dans son lit pour dormir, qu'il comprend que les choses aussi doivent être rangées. Maintenant, ranger, ce n'est pas de la maniaquerie. Ranger, ça veut dire que dans telle surface réservée à l'enfant, un coin de la pièce ou un panier, un casier à jouets, un placard, c'est là qu'on va tout mettre. Mais il ne faut pas se mettre à mettre telle chose à tel endroit, telle chose à tel autre. Il faut savoir que quand les enfants sont petits, il faut qu'il y ait un fatras personnel à l'enfant. Pour les enfants, c'est important qu'ils aient un coin à eux, chacun, surtout dans une famille nombreuse, où ce qu'ils ont de précieux, ils peuvent le mettre hors de la portée des autres. Avec, par exemple, un cadenas, si ce n'est pas à clé, un cadenas à lettres, mais qui ne disent pas les lettres de ce cadenas aux autres. Ou alors sans ça, c'est qu'ils veulent que les autres viennent leur piquer leurs affaires.
Oui, le cadenas, ça, c'est assez rigolo, je dois dire.
C'est clair, c'est la famille très nombreuse, là.
Oui, c'est là, c'est, oui, oui. Mais,
oui, mais y a là, car... on parle plutôt de préadolescents ou de grands-enfants, quand
ah,
même.
Je ne pense pas qu'elle parle de grands-enfants, là.
Parce que moi, je me souviens, j'avais un carnet intime, en fait, qui pouvait se fermer avec un petit cadenas dans lequel je notais, mais j'étais...
Ah, mais adolescente.
J'étais préadolescente, oui.
Ah, oui. D'accord. Mais là, ce qu'elle dit, en fait, c'est que avant 4 ans, on ne peut pas enseigner vraiment l'ordre. Il faut que l'enfant le voie. Ça, je ne sais pas. Moi, ça me... Je ne sais pas trop.
Moi, je pars du principe qu'on peut apprendre plein de choses à un enfant en bas âge tout en jouant. En ce qui me concerne et ce qui concerne mon compagnon, c'est ce que nous avons fait avec Silène. Et du coup, même à 2 ans, on rangeait ses jouets en s'amusant. Voilà, c'était un jeu. Alors par contre, nous, à la maison, Silène a sa chambre. Et étant donné que nous sommes 3 et que la maison est un peu... nous avons de l'espace, un peu d'espace. Ma petite fille a des jouets partout dans la maison. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a des choses un peu partout. Bon, on se pose la question... Qu'est-ce qu'on fait à présent? Et des fois, nous rangeons tous ensemble, ou des fois, ma petite fille se prend en main et range toute seule. Elle a 3 ans et demi, enfin, des fois, elle ne range pas. Voilà, moi, je me dis qu'un moment viendra où elle rangera toute seule, parce qu'il nous arrive même de ranger des choses ensemble, même qui ne lui appartiennent pas. Donc, je pense que ça fait partie toujours du jeu. Et que ça viendra au fur et à mesure, voilà.
Je suis d'accord. Oui. Je pense que c'est pas ce qu'elle entend par enseignement en fait, Françoise Dolto là, parce que comme dit Magali, on peut finalement ranger avec les enfants tout petits quoi. Mmh. Il y a différentes manières de l'amener en respectant son jeu et sa créativité. Après, puis c'est petit à petit qu'il apprend. Moi, ils sont un peu plus grands mes enfants pour le coup, mais je suis incapable de dire précisément, à 4 ans, ils ont commencé à ranger
non,
tout seuls.
Non, c'est facile.
Non, et puis
c'est pas...
ça s'est fait petit à petit. Mmh. Après, ils n'ont pas des modèles de rangement extraordinaire chez nous. Mais,
je pense que ça y joue aussi, oui.
mais je pense qu'ils sont plus ordonnés que nous, finalement.
Ah oui. Mais moi, je crois qu'elle met à cette limite autour de 4 ans parce qu'elle a peur qu'avant, l'enfant devienne maniaque si on insiste trop sur le rangement. Mais en fait, moi, j'ai aussi autre chose que j'ai beaucoup observé, c'est qu'un enfant petit, par exemple, vers 2 ans, il est souvent très, très maniaque. Il a besoin d'avoir certaines choses toujours à la même place et pas 50 cm à côté. Ouais. Hein. Parfois, c'est une question de sécurité, en fait.
Ah, c'est
peut-être, ça rend peut-être plus dans l'ordre, mais il y a des choses quand même intimes qu'il il faut, certaines choses qu'il faut qu'il ait toujours à la même place. Puis après, ça passe quand il grandit. Mais
c'est vrai que souvent, ils alignent là, ils mettent les bleus avec les bleus. Enfin, moi, ma fille, elle faisait ça. Elle mettait tous les objets bleus ensemble, tous les objets verts ensemble. Puis elle faisait des tas comme ça et c'était rangé, c'était son rangement. Des choses qui n'avaient rien à voir, un chausson avec un Playmobil, avec un Lego.
Elle était déjà dans les ensembles mathématiques, en fait.
Ouais, peut-être. Ouais, ça doit être ça.
Ça doit être ça.
Non, mais c'est vrai qu'il y a de ça, oui, effectivement. Par contre, à 3 ans, c'est assez, moi, je trouve ça assez fabuleux. C'est que des fois, elle nous demande d'aller chercher un de ses doudous qu'elle a oublié je ne sais où. Enfin, moi, je l'ai vu, mais je ne lui dis rien, en fait. Et elle sait précisément, quand elle me le demande, où est-ce que je dois aller chercher son doudou. Et ça, ça me fait...
Elle vérifie que tu sais, toi aussi, où il est, c'est ça,
Non, je pense qu'elle ne sait pas, moi, où ça se trouve, mais moi, j'ai l'œil partout, enfin, voilà, c'est comme ça. Mais non, je pense qu'elle ne sait pas où est-ce que moi, je le sais ou pas, où son doudou se trouve, en fait. Mais elle le sait vraiment bien, en fait. Même s'il est caché sous une montagne de coussins, elle pourrait me dire, tiens, ce doudou, il est sous cette montagne de coussins. Et je trouve ça assez fabuleux.
Oui, mais c'est son doudou. Elle ferait peut-être pas ça pour tous les...
Non, elle en a plusieurs.
Elle en a plusieurs, oui. Bon. Un de ses doudous, alors, on va dire.
Ah ben, moi, ils savent pas. Après, je rebondis sur le petit coin. Et moi, ils sont tous les deux dans la même chambre. C'est un garçon et une fille. Ils ont 2 ans d'écart. Et on m'avait conseillé de faire un petit coin pour la grande. Et puis, on l'avait fait, mais en fait, elle ne s'en servait pas. Et c'est vrai qu'elle a commencé vraiment à utiliser son petit coin et à mettre son fatras à elle, puis à leur donner comme elle veut ou pas. Il n'y a pas de cadenas à la maison, mais en même temps, elle a son petit tiroir. Et puis, son petit frère, eh ben, il a l'interdiction formelle de passer une ligne imaginaire là, sur le sol. S'il la passe, elle hurle, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et il respecte, en fait. Et lui aussi, du coup, il a un petit coin, il s'en fiche. C'est un fatras pas possible, là.
Oui, mais bon,
jamais
il a son
rangé,
coin, quand même.
Mais il s'en sert pas, lui, pour le coup.
Ah oui.
Et ça, c'est vrai que c'est vraiment bien. Ouais. Un petit coin à eux, eh ben, c'était vraiment bon conseil, parce que ils peuvent vraiment laisser... Et puis, je veux dire, il y a tout, c'est pareil dessus. Il y a un caillou, comme un emballage de carambar. Il y a en même temps un livre. Et puis, en même temps, il y a plein de choses qui se mélangent là-dessus. Moi, des fois, j'aurais juste envie de venir et d'en mettre la moitié à la poubelle. Mais bon, je ne le fais pas.
Bah,
mais
t'as raison.
Mais voilà.
Chez nous, en ce qui nous concerne, tu vois, par exemple... notre petite fille, elle dépose ses trucs un peu partout dans la maison. Parce que déjà, enfin, je sais pas, nous, on a qu'une enfant, alors peut-être que ça y joue beaucoup. Et enfin, moi, en ce qui me concerne, je vais pas dire on, je vais parler de moi, de jeune maman que je suis. Étant donné que je sais que j'aurai qu'un seul enfant et que ce sera la seule que j'aurai, cet enfant fait partie d'un tout au milieu de la maison. À ma fille, je ne lui dis jamais « Bon, maintenant, je vais faire quelque chose, tu vas jouer dans ta chambre. » Je ne lui dis jamais ce genre de choses, par exemple. « Tu vas jouer dans ta chambre. » Elle a un emplacement à elle dans le salon et elle peut jouer tant qu'elle veut dans le salon, en fait. Voilà, c'est sûr qu'elle a sa chambre et elle y va quand elle en a envie, mais sinon, elle fait partie de la maison, comme nous, en tant qu'adultes, on en fait partie.
Dans chaque pièce, elle a un univers à elle.
Pas dans chaque pièce, mais dans la...
Je crois qu'il y a plutôt son univers dans toutes les pièces, d'après ce que j'ai
compris. Merci Laurence, c'est exactement ça. Ma fille a son univers dans toutes les pièces, nous allons nous en apercevoir tout à l'heure.
Mais pourquoi pas?
Moi aussi. Hein,
enfin, je veux dire qu'il peut y avoir une explication apportée. Ouais. Enfin, parce que j'y réfléchis, bien entendu. Parce que les enfants, ils jouent dans leur chambre. Enfin, j'ai des nièces, j'ai des neveux.
Les petits, ils ne restent pas facilement dans leur chambre.
Mais
quand
bon,
même.
Voilà, enfin, et je pense que ça. Enfin, quand elle en aura besoin, en fait, elle sera tout le temps là. Quoi, voilà.
D'accord.
La grande sœur, elle commence juste à le faire et elle a 9 ans, tu vois. Donc. Parce que quand ils sont petits, ils ont besoin d'être dans la pièce commune, quoi. Ça les rassure.
Oui, puis d'être avec en famille aussi.
Voilà, en famille, parce que je pense que c'est différent lorsqu'il arrive une petite... Enfin, lorsqu'il y a un frère ou une sœur après, parce que les enfants jouent... Moi, je vois mes nièces, par exemple, elles jouent assez souvent dans leur chambre, toutes les deux.
Elles sont plus grandes.
Elles ne sont pas avec...
Pas plus, ouais.
5 ans, hein, la plus jeune. Donc, du coup... Et ça a été ça, en fait. C'est ça depuis quelques années. Donc, du coup, je me dis peut-être que quand il y a deux enfants dans une même maison... Effectivement, les relations entre parents sont peut-être moindres qu'avec celles d'un enfant unique, parce que les deux enfants peuvent se retrouver, se sentir bien, surtout parce que l'enfant n'est pas seul, en fait. Voilà. À deux, c'est beaucoup mieux, comme dirait une petite histoire de Lily et Tom que je nommerai pas.
Je range, il est l'heure de ranger. Beaucoup joué, maintenant il faut ranger. Je range mes affaires et mes jouets. Viens vite m'aider, ce n'est pas compliqué. Si je laisse traîner mes jouets, je pourrais tomber, ne plus jamais
Voici donc que se termine la première partie de la table ronde avec deux mamans, Marilyn et Magali, que nous retrouverons donc dans 15 jours pour la fin de cette table ronde. À bientôt. L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.